Moi, je vais
Moi,
vous
je vais vous
faire une
faire une
présentation,
présentation,
je
je
vais
vais
essayer
essayer
de
de
la
la
faire
faire
extrêmement
extrêmement
rapide,
rapide,
du
du
coup,
coup,
vu
vu
l'heure
l'heure
avancée,
avancée,
sur
sur
le
le
besoin
besoin
de
de
données
données
climatiques
climatiques
pour
pour
des
des
stratégies
stratégies
d'adaptation
d'adaptation
urbaine
urbaine
et
et
sur
sur
comment
comment
mettre
mettre
en
en
place
place
des
des
coproductions
coproductions
de
de
ces
ces
données-là.
données-là.
Donc,
Donc,
moi,
moi,
je
je
travaille
travaille
à
à
l'IDRI,
l'IDRI,
qui
qui
est
est
l'Institut
l'Institut
du
du
développement
développement
durable
durable
et
et
des
des
relations
relations
internationales,
internationales,
sur les questions de l'adaptation, assez peu sur les questions de ville encore. J'ai un point d'entrée qui est plus lié aux négociations internationales et la mise en œuvre de l'adaptation qui en découle. Voilà, je pense que ça vous aidera à comprendre ma présentation ensuite. Je vais vous éviter ça et pourquoi il faut s'adapter, y compris pour les villes. Je pense qu'on a compris maintenant pourquoi il faut le faire. Juste, je vais commencer là, c'est-à-dire je vais reprendre ce qui a été dit plus tôt, on se rend compte que finalement la mise en œuvre de l'adaptation, y compris dans les villes, n'a pas forcément attendu. La recherche ou une certaine maturité de la recherche. Je cautionne pas complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire en l'occurrence, il a été dit que la recherche avançait pas beaucoup alors que la mise en œuvre avançait beaucoup. Je pense que la mise en œuvre avance beaucoup, mais principalement en quantitatif et pas vraiment en qualitatif. Mais bon, c'est éminemment discutable, évidemment. Ce qui ressort d'une certaine mise en œuvre de l'adaptation dans les villes, c'est un certain nombre de cadres d'action. Qui peuvent être soit décrits comme tels, c'est-à-dire on a des guidelines, je vous en ai mis deux là, soit simplement qui découlent de l'analyse de ce qui se fait en termes de stratégie d'adaptation urbaine. Et en gros, je vous ai modélisé là le cadre d'action extrêmement simpliste. Le concept, c'est de commencer par regarder quels peuvent être le type d'impact pour ma ville. En général, on regarde des listes toutes faites et on coche. En général, on les prend tous. Ensuite, on évalue d'une part la vulnérabilité de ma ville de tout autre système d'ailleurs et les risques. Alors, dans les notions de vulnérabilité, il y a tout un tas de notions qui sont extrêmement complexes, mais en général, pour ces stratégies urbaines, ça a trait d'une part à la sensibilité de la ville et d'autre part à sa capacité d'adaptation. Une deuxième évaluation est celle des risques. Pour les risques, c'est plus classique, c'est des questions de gravité et de probabilité. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a une priorisation nécessaire qui nous amène à élaborer une stratégie d'adaptation et des mesures d'adaptation, etc. Donc la question ici, c'est. Pardon, excusez-moi. La question, c'est quelles données est-ce qu'on va utiliser pour mettre en œuvre l'adaptation dans les villes? Il y a plusieurs besoins de données, climatiques en l'occurrence. D'une part, ça permet de comprendre la vulnérabilité du système. Donc, voilà. D'autre part, ça permet d'établir des priorités d'action. Et enfin, ça permet d'élaborer des stratégies d'adaptation. Ce qu'on remarque dans tous les cas, et c'est évidemment corrélé au fait qu'il y a de plus en plus d'adaptations dans les villes et ailleurs, c'est qu'il y a un besoin grandissant de disposer de données climatiques adaptées au problème. La question évidemment, c'est qu'est-ce que c'est des données climatiques adaptées au problème? En général, on a une vision assez opportuniste de la donnée climatique, c'est-à-dire que pour tout un tas de raisons, en particulier le temps, qui a été évoqué tout à l'heure. En général, quand on met au point une stratégie d'adaptation, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour tout un tas de raisons, on a tendance à utiliser des données qui sont préexistantes à la stratégie d'adaptation. C'est-à-dire qu'on ne construit pas, on ne produit pas de données climatiques spécifiques à la stratégie d'adaptation. On voit apparaître petit à petit certaines expériences où il y a un certain travail entre à la fois des climatologues et les gens qui sont chargés de mettre en place la stratégie d'adaptation pour définir quels indicateurs vont être utiles, ou en tout cas quels indicateurs vont être utilisés. Mais on n'est pas encore vraiment dans de la coproduction, de la coproduction, on est plutôt dans de la co-sélection de données, c'est-à-dire que ce sont des données qui en général existent déjà, des indicateurs qui existent déjà sur une liste qui est assez courte, et qu'on utilise ça et là dans la stratégie. Il y a plusieurs risques à cette façon de faire qui risquent de perdurer encore un moment. Le premier risque, il est assez évident, c'est qu'on n'utilise pas les données climatiques parce que ce n'est pas celles qui sont nécessaires à l'élaboration de la stratégie d'adaptation. Je vais vous parler tout à l'heure d'études de cas dans l'industrie. On se rend compte que les industriels ont tendance à abandonner un peu cette question-là parce que quand ils commencent à creuser leur vulnérabilité, ils ne trouvent pas de réponse. Disons qu'ils n'arrivent pas à travailler avec les indicateurs climatiques qu'ils ont et ont tendance à abandonner la question de l'adaptation. Un deuxième risque, c'est une tendance à une surreprésentation de certains changements relativement simples, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de construire de nouveaux indicateurs. Parallèlement, une prise en compte, du coup, une prise en compte sous-optimale d'autres risques que ces risques relativement simples. Et enfin, un troisième risque, c'est qu'on voit souvent apparaître les mêmes stratégies d'adaptation, exactement les mêmes, et assez peu nombreuses en fait, qui découlent directement des indicateurs choisis. En fait, je pense qu'il y a trois grands besoins de coproduction de données pour l'adaptation. Là aussi, enfin, c'est pas du tout, ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais j'en ai identifié au moins trois. C'est-à-dire, le premier, c'est le plus simple, créer des données utiles à l'utilisateur. C'est-à-dire des données qui soient pertinentes, qu'il puisse utiliser pour comprendre sa vulnérabilité et s'adapter. Là-dessus, le plus simple, c'est, enfin, en général, ce qui est le plus nécessaire, en fait, c'est d'organiser une discussion entre des climatologues et des utilisateurs. Donc nous, c'est ce on va faire plus tard dans le projet ou que je vais voir dans les prochains transparents, ce sont des industriels. Donc pour organiser un dialogue pour que les climatos comprennent bien quel est le besoin des utilisateurs et qu'en réponse, ils puissent répondre à ce besoin-là ou en tout cas trouver l'indicateur qu'ils jugent renseignable, si vous voulez, et qui correspondent le mieux aux besoins. Un deuxième besoin de coproduction de données, c'est de couvrir un champ d'impact plus large. Avec les indicateurs traditionnels, disons classiques, du climat, on a du mal à s'adapter à des impacts qui nécessitent d'autres champs de recherche. L'exemple typique, c'est évidemment les inondations, qui nécessite souvent de faire travailler des hydrologues ou des hydrauliciens, je ne sais plus comment on dit, des climatos et des utilisateurs. Enfin, un troisième besoin de coproduction, c'est, et à mon avis, c'est un des plus importants et un des plus complexes, c'est comprendre l'évolution de la vulnérabilité d'un point de vue dynamique et en particulier en fonction des autres changements que le simple changement climatique. Ce qu'on a tendance à faire à l'heure actuelle, y compris et surtout en fait dans les villes, c'est de regarder la vulnérabilité de la ville actuelle au changement climatique, donc au climat futur. On ne sait pas encore faire, on ne sait pas encore regarder la vulnérabilité de la ville future, donc de la ville qui aura changé, au climat futur. Et là-dessus, il y a évidemment un besoin de coproduction de données pour que les données climatiques puissent être mises en regard de données plus socio-économiques. Donc je vais vous présenter maintenant, je crois, voilà, le projet Invulnérable, qui est mis en place depuis 2006, je crois, disons, qui est piloté par l'IDRI, mais qui fait surtout intervenir des climatos français et des industriels, qui est parti de deux constats, en fait. D'une part, une certaine abondance de données climatiques qui découlait du travail fait pour le GIEC, le quatrième rapport du GIEC, et d'autre part, donc une certaine abondance de données climatiques, mais relativement sous-utilisées, premièrement, donc, et deuxièmement, un constat d'opportunité. On s'est rendu compte qu'il était possible de faire travailler ces données et les climatologues avec des industriels. Pour trouver une sortie à ces données. Alors, le projet Invulnérable regarde principalement cinq types donc travaille avec des industriels, ça c'est important, et regarde cinq types de vulnérabilités pour les industriels que je vous ai listés là. Rapidement, c'est les vulnérabilités sur la ressource, donc pour une entreprise, par exemple une entreprise qui distribue de l'eau, est-ce que l'eau va diminuer ou augmenter? La vulnérabilité sur la conception des infrastructures et des installations, les vulnérabilités sur la demande de biens, donc la demande. Ensuite, les vulnérabilités en termes de gestion, disons du process industriel. Et enfin, les vulnérabilités en termes d'incidents climatiques, disons les extrêmes. Très très rapidement, je vais vous présenter une étude de cas. Donc, il y a eu trois études de cas dans ce projet avec. Pourquoi c'est intéressant pour la ville? Parce que c'était trois études de cas qui ont à chaque fois impliquer des réseaux, un réseau de chaleur que je vais vous présenter là, un réseau d'eau pour la ville de Valence et un réseau de gaz avec GDF Suez. Donc ici, on va regarder le travail qu'on a effectué, qui est relative, qui est vraiment un travail pilote, hein, ça ne se veut pas du tout. C'est pas immensément ambitieux, mais vous allez voir, ça donne des résultats intéressants. Donc, la méthodologie utilisée, c'est d'abord d'identifier et de sélectionner les vulnérabilités climatiques sur lesquelles on veut travailler. Dans le cas d'Alca, pardon, pour les réseaux de chaleur, ils étaient intéressés de savoir. En fait, ils avaient constaté dans le Texas des difficultés de gestion de leur réseau de chaleur liées à des trop grandes variations de température. Ils voulaient savoir si ça allait se reproduire, si ça allait se produire en Europe et en Chine à l'avenir à cause du changement climatique. Donc voilà en gros la demande de départ. Ensuite, une grosse partie du travail a consisté à définir de façon précise l'indicateur climatique nécessaire, ou en tout cas qui était capable de renseigner cette vulnérabilité-là. Donc il y a eu un travail entre des climatos et des industriels pour comprendre vraiment quelle était la vulnérabilité de leur réseau de chaleur. Ce qui en a découlé, c'est, je passe rapidement sur le transparent d'après, c'est ce qu'on appelle le DTR, ou l'amplitude journalière de température. C'était le bon indicateur, c'est-à-dire la température maximum sur 24 heures, moins la température minimum sur ces mêmes 24 heures. L'indicateur, c'est celui qui est tout en bas, c'est-à-dire en gros, pardon. C'est le nombre de jours où le DTR dépasse la valeur de référence d'un certain seuil de vulnérabilité, défini là aussi avec l'industriel, ce qui en l'occurrence était 5 degrés. Je reviens au slide d'avant. Donc, ensuite, après ce travail de définition de l'indicateur, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les climatologues sont rentrés dans leur bureau et ont analysé l'indicateur de façon assez complexe, et je suis pas vraiment, enfin, je me sens pas pertinent pour vous en parler. Et enfin, il y a le rendu final qui est la confrontation du résultat avec les attentes de l'industriel. Donc, je vais pas vous parler beaucoup plus que ça du travail des climatologues. En termes de résultats, c'est assez intéressant de voir d'une part pour Dalka que en Europe du Nord, donc on a découpé trois zones, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest et la Chine. En Europe du Nord, l'indicateur diminue et on s'éloigne de la zone de vulnérabilité assez vite. Donc en fait, le changement climatique implique une réduction de vulnérabilité pour les réseaux de chaleur dans ces zones-là. En Europe de l'Ouest, ça augmente, mais on est encore très loin de la zone de vulnérabilité en 2100. Et enfin, à mon avis, si on poursuit la tendance, on ne l'atteint pas avant 2200, donc on est large. Mais quasiment le résultat le plus intéressant, c'est les points d'interrogation. C'est des situations où, dans l'état actuel du travail effectué, on n'est pas capable de donner à l'industriel une valeur ou des informations qui lui permettraient de s'adapter ou de faire quelque chose. C'est-à-dire que ça découle de deux cas, soit dans l'état actuel du travail effectué, il y a trop d'incertitudes et il faudrait poursuivre le travail, en particulier en effectuant une descente d'échelle, soit on a utilisé plusieurs modèles dans les simulations et il y a trop d'incertitudes entre les modèles, trop de divergences entre les modèles. Et donc, dans l'état actuel des connaissances, on peut pas leur donner une réponse. Et ça, en soi, c'est un résultat extrêmement intéressant pour le concept. Alors, je suis presque à la fin. En termes d'avantages et de limites, les avantages, pourquoi on considérait que c'était important pour les industriels de commencer à regarder ces choses-là, c'est que d'une part, ça leur permettait de mieux prendre en compte le climat. Comme je vous ai dit, le fait de ne pas avoir des indicateurs dédiés, c'était un frein pour eux pour prendre en compte les impacts du climat sur leur activité à long terme. Ensuite, c'était important aussi de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des données climatiques et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. En général, les industriels avaient tendance à être assez catégoriques. C'était soit c'était inutile parce qu'il y a trop d'incertitudes, soit ça va nous permettre de nous adapter de façon idéale. Enfin, le troisième point, c'est a priori, c'est une pratique qui va se développer et c'est un peu dans ce cadre-là, c'était intéressant pour eux de commencer à réfléchir tout de suite. Par contre, on se rend compte qu'en termes de projet, c'était limité par d'abord un final, par exemple pour Dalkia et ses réseaux de chaleur, on a regardé une petite vulnérabilité et un indicateur de cette vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, que la vulnérabilité est liée à la variation de température diminue, mais rien nous dit, il y a, rien nous dit, enfin, on n'a pas étudié, par exemple, la vulnérabilité liée à la demande. Et en l'occurrence, est-ce qu'elle, si cette vulné, si, si la vulnérabilité diminue à cause d'une amplitude, disons, d'un écart journalier de température qui diminue, est-ce que c'est pas parce que la température globalement augmente et donc il n'y a plus vraiment besoin de réseau de chaleur? Une autre limite du projet, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et ça demande beaucoup de travail en termes scientifiques. Enfin, on regarde, enfin pas enfin, on a tendance, disons les industriels à qui on demande d'exprimer leur vulnérabilité, ont tendance, c'est même plus que tendance, systématiquement, se tournent vers le passé et regardent des événements extrêmes auxquels ils ont dû faire face. Disons, ouais. Ou en tout cas des événements auxquels ils ont dû faire face et se demandent s'ils vont se reproduire à l'avenir avec plus ou moins soit d'intensité, soit de fréquence. Donc on regarde en fait un nombre limité de vulnérabilités encore. Voilà, en gros. Et le message principal, c'est qu'il y a quand même un besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire encore une fois, je pense que c'est pas, il faut pas s'attendre à un travail, donc que ce soit en l'occurrence avec des industriels ou avec une ville, ce n'est pas un travail ponctuel et rapide. À mon avis, c'est plutôt un travail dynamique et qui prend du temps. Voilà, j'ai fini. Quelques éléments de discussion ici, mais vu le temps qui nous reste, je pense qu'on va abréger. Mais une question qui est soulevée quand même par ce genre de projet, c'est est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de données, qu'elles soient climatiques ou autres, pr très précises? D'une part, est-ce que c'est possible? Et d'autre part, est-ce qu'on peut s'en passer pour mettre en place une stratégie d'adaptation? Et je pense que là-dessus, c'est important d'essayer de comparer, et je ne suis pas capable de le faire, hein, mais c'est important d'essayer de comparer avec ce qui se fait dans d'autres champs d'incertitude en l'occurrence. Pour une industrie, le climat est loin d'être la seule incertitude. Et pourtant, je pense qu'ils n'ont pas la même demande en termes de précision pour les autres incertitudes que pour le climat. On peut réfléchir à pourquoi, etc. Mais du coup, la question qui est là, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des données climatiques précises? Voilà. Le troisième élément de discussion, c'est pour revenir au transparent. Non. Celui-ci, donc les différents besoins de coproduction de données. Vous voyez que le projet dont j'ai parlé, il traite uniquement le premier besoin. Qu'est-ce qu'il en est des deux autres besoins qui, a priori, sont quand même beaucoup plus complexes? Voilà. Et je vous remercie.